France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h pour Soleil, le rendez-vous protestant. Bonjour et très bonne année 2025 que j'aimerais commencer en partageant avec vous le verset choisi par la Fédération protestante de France pour nous accompagner tout au long de cette année. Alors juste quelques mots d'une simplicité évangélique pourrait-on dire, mais lourd de sens et de conséquences dans son application. C'est ce verset qui ouvre le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, persévérer dans l'amour fraternel. Pour cette première émission de l'année, pour les premières des trois mois suivants, février, mars et avril, un seul et même invité, c'est le pasteur Pierre Magne de la Croix, président du conseil synodal de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine. Il a été pasteur à Nancy, à Castres, à Montbéliard et puis à la paroisse de Strasbourg, le Bouclier. Et avec lui, nous allons nous promener autour du personnage de l'apôtre Paul en développant quatre thématiques distinctes et complémentaires. Pour nous accompagner dans ce cheminement, Vincent Smetana qui nous proposera aussi son regard aiguisé, mais parfois aussi un peu décalé sur l'un des mots de l'émission. Bonjour Pierre, bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour.
Merci Pierre avant tout d'avoir accepté cette invitation au long cours, pourrait-on dire. Quatre rendez-vous ce matin, le 2 février, le 2 mars, le 6 avril, mais aussi avec ce personnage de Paul qui va être au cœur, au centre de nos discussions. J'utilisais là juste avant pour parler du verset de l'année de la Fédération protestante, de simplicité évangélique. Alors avec Paul, on peut avoir le sentiment que les choses sont un peu plus compliquées, une pensée plus dogmatique, on peut dire ça peut-être. Comment vous percevez cet apôtre et pourquoi le choisir pour France Culture ?
Alors c'est juste que ses écrits paraissent parfois compliquées, notamment dans la traduction du grec, mais elles témoignent d'expériences et de réalités où sa pensée, sa vie et sa foi se construisent sur des situations concrètes, sur du terrain. Et du coup, ses écrits, sa pensée vont bouger, vont évoluer, vont être confrontés à des réalités.
Alors pour la première, vous m'avez proposé que nous commencions, que nous abordions ce personnage par le biais de l'esclavagisme, avec un titre un peu choc, Paul, chrétien esclavagiste, avec un point d'interrogation. Oui, mais comment ça se passe d'ailleurs chez les chrétiens du 1er siècle sur cette question de l'esclavage ?
Alors c'est une société esclavagiste, hein. Le monde romain fonctionne, dit-on, avec la moitié de la population en plus qui est esclave. On est avant l'abolition de 1794 à la Convention nationale, avant 1848, avant le 13e amendement aux États-Unis. C'est une société esclavagiste.
Et c'est la réalité.
C'est la réalité et Paul l'est. Il ne remet pas en cause, même s'il dit qu'il faut être gentil.
Et on va voir dans le texte que vous avez choisi, justement, que Cette pensée va apparaître à un moment donné. On va être discret pour l'instant sur le sujet parce qu'on verra que ça n'arrive pas tout de suite. C'est une lettre à Philémon. C'est l'une des épîtres du Nouveau Testament,
oui,
c'est ça ?
C'est la lettre la plus courte. Hein. Ouais. Il y a juste 25 versets, il n'y a pas de chapitre, c'est la plus courte. C'est ce qu'on appelle une lettre de recommandation, hein, du piston, si vous voulez, entre Monsieur Paul, qui est un personnage établi, reconnu, en plus il est en prison au nom de sa foi, donc c'est une autorité. Il écrit à quelqu'un qu'il connaît, à Monsieur Philémon, on va voir que c'est quelqu'un lui aussi d'établi, il a une certaine surface sociale, on dirait aujourd'hui. Et il écrit en faveur d'un troisième personnage qui est avec lui, ce monsieur Onésime, qui est un illustre inconnu, mais sans lequel la lettre n'existerait pas.
Alors, eh bien, entrons dans ce texte directement avec les sept premiers versets. Alors, dans cette émission et dans la plupart de celles que nous aurons ensemble, il n'y aura pas de rendez-vous avec la parole particulière, avec une voix qui nous lit le texte. C'est nous qui allons travailler parce qu'on va travailler le texte ensemble. Donc, c'était mieux de le faire ainsi. Et c'est vous qui commencez, Pierre Magne.
Moi, Paul, prisonnier du Christ Jésus, j'écris cette lettre avec Timothée, notre frère. Elle est pour toi, Philémon, notre ami, qui travaille avec nous. Elle est aussi pour Appia, notre sœur, et pour Archippe qui combat avec nous. Elle est encore pour la communauté qui se réunit dans ta maison. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Philémon, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie mon Dieu à cause de toi. En effet, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi envers le Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, donne de bons résultats. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons réaliser pour servir le Christ, frère. J'ai été très heureux et consolé parce que ton amour a encouragé les chrétiens.
Pierre Magne de la Croix, j'apprécie tant votre lecture et moi aussi je suis très heureux et encouragé de vous avoir là à mes côtés dans Solae, que cela est agréable. Bon, vous observez, j'espère que je fais un peu comme le renard de la fable, je flatte.
Vous flattez, oui, c'est ce que fait Paul au début de sa lettre, il flatte, il amadoue, il courtise, il fait ce qu'on appelle dans la rhétorique de la captatio.
Ouais.
Il faut que l'auditoire, la personne à qui j'écris, M. Philémon, mais vous avez vu qu'il élargit l'auditoire. Mmh. C'est un rusé, Paul. Hein, il faut les mettre dans des bonnes dispositions pour qu'ils soient en mesure d'écouter, de lire ce que Paul souhaite. Mais il ne le dit pas dès le début.
Alors on continue la lecture peut-être tout de suite, on continue d'avancer parce que là voilà, vous avez encore quelque chose? Non, voilà, on avance donc du verset 6 au verset 14 et je prends la parole. Donc, j'ai quelque chose à te demander avec le Christ. J'ai toute liberté pour te dire ce que tu dois faire. Pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Oui, moi, le vieux Paul, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ Jésus, je te présente cette demande pour Onésime. Il est devenu mon fils, ici, en prison. Autrefois, il ne t'a servi à rien, mais maintenant, il nous rend service, à toi comme à moi. Je le renvoie chez toi, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais bien voulu le garder auprès de moi. Il m'aurait rendu service à ta place dans la prison où je suis à cause de la bonne nouvelle. Mais je n'ai pas voulu faire quelque chose sans ton accord. Je ne veux pas t'obliger à cette bonne action. Je préfère que tu le fasses librement. Alors après la flatterie, que fait Paul ici? Comment analysez-vous les choses?
Il place les éléments. Il rappelle qu'il est en prison, qu'il est vieux. Paul, c'est une autorité reconnue. Il montre, il écrit qu'il va demander quelque chose, mais il veut pas imposer. Mais il place des arguments de telle manière que ça va être difficile de ne pas prendre en compte ce qu'il va demander.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est un peu confusant d'une certaine façon? Il parle de fils, de serviteur, il est le nôtre, quand il évoque Onésime en particulier.
Oui, alors... il mélange plusieurs appartenances, comme on dit. Hein. Alors, il y a une appartenance religieuse. Paul, c'est le supérieur de Philémon, mais en même temps, Onésime est aux côtés de lui. Ils sont en religion, ils sont frères. Il y a l'ordre familial. Onésime est comme son enfant, c'est sa famille. Mais Philémon aussi, c'est le frère. Et puis, il y a une appartenance aussi religieuse, christologique. Tous les trois sont serviteurs, esclaves de Jésus-Christ. Les trois sont frères en Christ, vous voyez, on se dit, mais alors, où est-ce qu'on en est? Qui suis-je? Alors, c'est qui ce Onésime, ce Philémon? Et on sent qu'à partir d'un cas particulier, Monsieur Onésime va se poser une question un peu plus générale, mais qui n'est pas encore arrivée.
Mais non, là, on ne sait pas encore où va aller Paul. On est vraiment encore dans les préliminaires.
On est dans les préliminaires, mais en même temps, il pose quelque chose qui, dans la foi chrétienne, ou en tout cas dans la religion, est importante. C'est qu'on va partir d'une situation concrète pour arriver à quelque chose de plus général. Quand il y a une personne malade, on va se poser la question, c'est quoi la santé? Lorsqu'on paye les impôts, on se dit, mais c'est quoi les autorités publiques? Lorsqu'il y a un divorce, on se pose la question, mais c'est quoi le couple? Lorsqu'une personne est morte, on se pose la question, mais c'est quoi la vie et la résurrection? Lorsqu'il y a le procès de Jésus, il y a la question, mais c'est quoi la vérité? Et puis là, on sent que Paul prépare le terrain pour arriver à la
situation. Mais avant, c'est un peu comme le donc, profitons de la présence de Vincent pour la suite de la lecture et avoir la réponse à ce que demande Paul. Retournons donc dans cette lettre à Philémon, versets 15 à 20, avec vous Vincent.
Onésime a peut-être été séparé de toi un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, maintenant, il n'est plus seulement un esclave. Il est beaucoup mieux qu'un esclave. C'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup. Mais toi, tu dois l'aimer encore plus parce que c'est un être humain et parce qu'il est chrétien. C'est pourquoi, si tu penses que je suis ton ami, reçois-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma main, c'est moi qui paierai. Je ne veux pas te rappeler que toi aussi, tu me dois quelque chose et c'est ta vie. Alors, frère, rends-moi ce service à cause du Seigneur. Rassure-moi au nom du Christ.
C'est pourquoi.
C'est pourquoi.
Enfin, j'ai envie de dire, les choses se précisent, elles se dévoilent.
Et puis, c'est pas rien. Il s'agit d'un esclave. Donc, on bascule dans un monde économique et social qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Quoi, il y a encore beaucoup d'esclaves sur la terre. Mmh. Mais tout d'un coup, on voit que ce monsieur Onésime appartient à une catégorie sociale qui fait tourner l'Empire. Il est un objet qui appartient à un maître, monsieur Philémon, qui est un chrétien. Onésime est un chrétien, Paul aussi. L'esclave en fuite, qui se réfugie chez Paul, est passible de punition, dit même éventuellement la peine de mort. Et celui qui héberge un esclave, ensuite, est lui complice. Aussi est complice. Mmh. Vous voyez que tout d'un coup, on était dans le monde religieux, l'ordre familial, enfants, frères, etc., l'appartenance christologique, on est tous et serviteurs de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, on bascule dans un autre monde. Tiens, économiquement, socialement, professionnellement, on n'a rien à voir.
Et Paul continue de mélanger les appartenances, oui. D'ailleurs. L'identité devient multiple.
Oui. L'identité, on le traitera dans une autre émission. Et c'est des multi-appartenances. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui est essentiel, en fait? Et on ne peut pas supprimer toutes les appartenances. Mais en parlant tout d'un coup, en disant, ben, Onésime est un esclave, il y a une sorte de catapultage des différentes appartenances. Et qu'est-ce qui va être essentiel? La christologie, l'appartenance religieuse, la famille, l'économie.
Qu'est-ce qui prend le dessus?
Qu'est-ce qui va prendre le dessus? Ouais.
Bon, alors, Vincent Smetana, vous êtes avec nous, non pas comme simple lecteur, mais aussi pour nous dire ce que cette lettre à Philémon, ce matin, vous inspire. Parce qu'elle vous chiffonne en quelque sorte aussi, je le vois dans vos yeux, et en plus vous me l'avez confié avant que nous ne prenions place ici, alors on vous écoute.
Écoutez, alors on va reposer ici une petite équation. Hein. Paul envoie un texto à son pote Philémon. Philémon, quel drôle de nom pour un pote de Paul. Pourquoi pas Kevin ou Jean-Raymond. Enfin bref. Donc comme ici, comme ceci le texto. TKT, donc t'inquiète, je te demande une faveur pour Onésime. Donc Onésime, c'était l'esclave de Philémon. J'expliquerai tout de suite esclave, mot pour dire d'aujourd'hui. Donc il pianote ceci. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Alors ça, mine de rien, c'est presque un sujet de philo pour le bac. Hein. Autrefois, il t'a été inutile. Ça déjà, je sais pas, c'est pas très sympa pour parler de quelqu'un, non? Enfin bref. Mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi, écrit Paul. Comprenne qui pourra, hein. Ceci dit, la solution vient juste après. Mais quand même, ce Paul, quel vanneur quand même. Non, parce que Onésime, que veut dire ce prénom, hein? Je vous le donne en mille. Onésime veut dire utile. Oh, utile était inutile, mais maintenant, il ne l'est plus. Bla, 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 bla. Ah, ce Paul, trop fort. Toujours le mot pour rire. Il aurait fait un excellent chroniqueur, hein. Enfin, bref. Voici la suite du texto. Je te le renvoie. Lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pour qu'il me rende service à ta place, qu'il me commande des pizzas, qu'il laboure mes terres et me serve un grand verre de bière. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien. Par obligation, mais de bon cœur. Question suivante. Un maître peut-il traiter son esclave en esclave de bon cœur, hein? Ou bien alors est-il méprisant par obligation? Et Paul termine comme ceci. Maintenant, il n'est plus un simple esclave. Non, il est beaucoup mieux qu'un esclave. Esclave masculin et féminin, identiquement, celui de celle ou celui qui n'est pas de condition libre, ou personne qui, par flatterie, par intérêt, se met dans la dépendance de quelqu'un. Si vous me dites tout le temps que mes chroniques sont extraordinaires, vous me flattez par obligation de tenir votre ligne éditoriale, Jean-Luc, mais moi je deviens de bon cœur esclave de vos flatteries. Et ça, ça ne va pas, ça. Alors, je me secoue de ce joug, de ce pas, car comme le dit Hegel, le philosophe, l'esclave est celui qui, par son travail, transforme la nature des choses. Il remarque qu'en travaillant travaillant, il accède à l'objet de son côté actif. Le maître, qui pour sa part ne connaît que son aspect passif, travaille mais ne fait pas réaliser, vit immédiatement dans la jouissance de l'objet consommable. Moi, j'écris la chronique et vous la consommez. Alors là, je vous le demande, qui est esclave de qui à la fin et pourquoi ? Oh Vincent, enfin ! Esclave, 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 oh là là ! Ce mot n'a plus cours aujourd'hui, voyons. Ah non ? 40 millions, c'est le nombre d'esclaves dans le monde, selon un récent rapport d'une fondation britannique ou britannique, je ne sais plus. Et parmi eux, un quart sont des enfants et 70% sont des femmes. La majorité vit en Asie et dans le Pacifique, bien sûr, mais le phénomène n'épargne aucun continent. Observez bien le gars qui vous apporte une pizza sur son vélo orange avec sa vareuse fluo et son sac à dos sympa qui garde la pizza au chaud. Hein ? Il est libre ou pas ? Si j'ai la flemme et que je demande au chat GPT de finir cette chronique, je suis libre ou pas ? Et sinon, qui est esclave de qui ? Voilà ce que Paul pointe, questionne, initie. Être à présent bien mieux qu'un esclave, être libre, se sentir utile et à sa place, compter pour quelqu'un, exister dans un regard, ne pas être monnaie d'échange, mais être valeur en soi, utile aux yeux de quelqu'un, ou mieux, particulièrement cher à ses yeux, ou encore mieux. Être ami de quelqu'un, se savoir ami, se sentir aimé, c'est-à-dire, comme le dit Paul, être pleinement dans sa condition humaine. Voilà.
Merci Vincent. Être dans sa condition humaine, justement, Pierre, ça induit aussi la question de l'identité, dont nous serons amenés à reparler en suivant les traces de l'apôtre Paul dans une autre émission. C'est un thème important dans ses écrits, l'identité. Mais vous souhaitiez encore lire un verset de cette lettre, le 21e. Alors c'est moi qui vais le lire et puis c'est vous qui allez le commenter. « Je t'écris en étant sûr que tu feras ce que je demande. Et je sais que tu feras encore plus. »
Et c'est quoi ce plus ?
Alors moi, ça me fait penser au film là qui cartonne, un petit truc en plus, c'est le gros carton de l'année. Il y a aussi la pub d'une biscuiterie allemande, vous qui vivez en Alsace, c'est un peu ancien, c'était Monsieur Plus qui en mettait toujours plus. C'est quoi le plus de Paul ?
Le texte dit pas, mais c'est un très bel écrit pour continuer l'histoire et se questionner. Alors quand on dit aux enfants de l'école biblique, les petits, on leur dit « c'est quoi le plus ?» On me dit « mais il va l'accueillir comme son enfant ». Les catéchumènes disent « il va l'affranchir et le rendre libre ». Les adultes disent « on, il va pas tout remettre en cause, mais il va le recevoir bien ». C'est quoi le bien ? Et puis le théologien ou le rhétoricien dira « c'est une très très bonne technique ». De ne pas dire ce que l'on veut pour qu'on continue l'histoire et que l'auditeur ou le lecteur poursuive la trajectoire. Alors là, j'aime bien cette histoire de Don Camillo qui utilise peut-être l'épître à Philémon dans un des films où Don Camillo doit réparer le clocher de l'église et donc oui, il cherche de l'argent et les gens du village, les paroissiens viennent et donnent et puis il y a un paroissien qui a l'air d'avoir une certaine surface sociale, peut-être Philémon, qui dit « voilà, je donne ça, est-ce que ça suffit ?» Et donc Camillo répond « pour moi ça suffit, pour le bon Dieu, je ne sais pas.
» C'est un espace d'interpellation, de liberté finalement. Une fin ouverte, vous parliez de cinéma, si on imagine un film, une fin qui laisse la possibilité aux spectateurs, aux lecteurs d'imaginer et d'imaginer peut-être en fonction de chacun, de ce qu'il est.
Voilà, alors on ne sait pas ce qu'a fait Philémon, on n'a pas de documents, et nous qu'aurions-nous fait ? Et que faisons-nous dans des situations qui nous interpellent, des situations concrètes ? Et qu'est-ce que ce serait ce plus dans différentes situations ?
Alors, Pierre Magne, nous avons fait le tour de la lettre à Philémon avec vous, en cherchant à discerner derrière les mots une pensée, une manière d'aborder cette question de l'esclavage. Qu'est-ce que vous retenez en conclusion de tout ça ? Est-ce qu'on pourrait essayer de faire un peu une synthèse, là, avant de se quitter ?
Alors, un premier point, c'est que Paul n'utilise pas une grande théorie. On attendrait le fameux Galates 3.28, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Mais il n'utilise pas, là. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il utilise plutôt un terrain dans lequel je suis impliqué, ces fameuses appartenances. Qui suis-je ? Qui es-tu ? Quelles sont tes relations économiques, religieuses, christologiques, familiales et comment ça s'articule tout ça ? Alors c'est important de voir que dans certaines situations, on n'est peut-être pas dans la théorie ou le dogme, mais dans l'application concrète. Et C'est bien souvent comme cela que, en société, ou en tout cas je pense en Église, les choses avancent. Mmh. On n'a pas dit à un moment donné, on va parler de la femme. Voilà. C'est parce qu'il y a eu des cas concrets de femmes qui ont dit, on occupe les postes, on prend des situations, que l'Église a été amenée à changer son point de vue et d'accepter que les femmes prennent des situations qui avant étaient réservées aux hommes. Mais ça part de questions concrètes. Mmh. C'est parce qu'il y a des couples de même sexe qui demandent d'être reconnu, d'avoir une bénédiction, qu'on se pose la question et qu'on va, à ce moment-là, réfléchir et avancer. C'est aussi la question, à un moment donné, qui était celle des divorcés. Voilà. C'est-à-dire que c'est les cas concrets, les situations même personnelles, qui amènent à avancer et à transformer la théorie, la pensée, ou voire même la dogmatique. On dit que la pratique précède la dogmatique.
Et d'ailleurs, dans les réflexions intimes et personnelles de chacun, c'est aussi parfois comme ça que les choses avancent dans notre réflexion sur la vie, sur le monde, sur la foi d'ailleurs aussi. C'est quand on est confronté souvent à une situation spécifique que finalement des chemins s'ouvrent, oui. De nouveaux chemins s'ouvrent.
Voilà, et qu'on est amené à repenser, à remettre en cause, à reconsidérer des points de vue, des théories, voire des dogmes, pour les faire peut-être les habiter autrement, les faire ou évoluer ou les transformer.
Et sur ce plus, peut-être revenir encore un petit moment, est-ce qu'on ne pourrait pas percevoir peut-être la grâce ?
Peut-être. C'est-à-dire cette parole qui pose un regard de grande confiance et de grande attente, de grande espérance sur quelqu'un, et une attente, une espérance qui va au-delà de ce que moi je pourrais imaginer. Il y a quelque chose qui m'échappe, je pose quelque chose, parce que je suis moi-même l'objet d'une grande confiance qui me précède, je n'en suis pas redevable, je suis aussi en mesure de poser ce regard de confiance sur quelqu'un d'autre. Et c'est ce plus. Mmh.
Paul n'évoque pas ce qu'il dira plus tard et que nous verrons dans une émission, et donc je ne vous demande pas de traiter le sujet puisqu'on le fera dans une autre émission, mais ce fameux texte que l'on trouve dans l'Épître aux Galates au chapitre 3, le verset 28, il n'y a plus ni esclave.
Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Non, il ne le cite pas là. Il ne le cite pas.
Il n'est pas encore à ce niveau-là, à ce moment-là, de sa réflexion, de sa prise de position.
Alors, Philémon aurait été écrit après Galate, ouais. Mais on voit que, suivant les situations et suivant le terrain, les arguments
sont pas les mêmes.
Ouais. Et que là, il ne part pas avec cette idée, ou alors ce qu'il avait formulé de manière géniale dans Galate, mais qu'il aborde les choses plus par les relations, par les appartenances, par le terrain dans lequel se trouvent imbriqués Philémon, Onésime et lui-même.
C'est peut-être quelque chose qu'on peut déjà dire de Paul, cette capacité à s'adapter au moment présent dans sa manière de se positionner, alors de se présenter, on le verra dans les identités, mais aussi d'utiliser les bons arguments. Je pense au moment, par exemple, dans les Actes des Apôtres, où il revendiquera son appartenance romaine afin de pouvoir aller jusqu'à Rome.
Voilà.
Il a lui-même
plusieurs appartenances, hein. Il est juif, il est grec, il est latin, il est romain. Et suivant le terrain, suivant les interlocuteurs, suivant à qui il écrit aussi, on verra dans l'Épître romain, on parle pas de la même manière, on communique pas de la même manière. Donc il y a une grande attention à qui je parle et qu'est-ce qui va faire que je vais entrer en relation, qu'on va se prendre au sérieux l'un l'autre et qu'on va pouvoir cheminer ensemble. Mmh. Et là, il utilise la lettre de recommandation. On se dit, est-ce qu'il a été à la même école que le grand rhéteur Quintilien, hein ? C'est-à-dire, j'ai une recommandation à faire, et bien j'utilise une technique très particulière qui est la lettre de recommandation avec cette flatterie au début, cette implication, cette imbrication de nos appartenances pour arriver à la demande et espérer que ça va même aller beaucoup plus loin.
Eh bien, merci beaucoup, pasteur Pierre Magne de la Croix. Très riche tout ça, et nous n'en sommes en fait qu'au début, la suite dans un mois. Je rappelle que vous nous proposerez 4 émissions, 4 regards posés sur l'apôtre Paul, ce matin pour commencer, et ensuite le 2 février, le 2 mars et le 6 avril. À très bientôt donc. Alors très vite, je voulais signaler un film en salle depuis mercredi, Quiet Life, qui parle du trop méconnu syndrome de résignation. C'est un syndrome dissociatif qui décrit en Suède depuis les années 2000, qui induit notamment un état léthargique, comateux, qui affecte surtout des enfants de réfugiés qui ont subi des traumatismes psychologiques. Avec lui, c'est le récit d'un combat acharné d'un couple pour retrouver espoir et stabilité, pour déceler la lumière dans les ténèbres, surmonter une situation inhumaine. Une histoire justement universelle, un peu comme nous l'évoquions avec Paul, mais qui passe par l'exemple d'une situation de vie. La fragilité de la vérité aussi est abordée, l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants, et sur la situation d'un enfant en exil. On y observe aussi un personnage secondaire que je trouve personnellement très intéressant, Adriana, qui va devenir l'élément permettant le déclic, l'espérance, une sorte de héros du quotidien, une main tendue, une oreille attentive. Et c'est quelque part pour moi une très belle métaphore de ce que nous propose de vivre l'évangile dans nos histoires personnelles. Je vous recommande donc ce film, Quiet Life, d'Alexandro Savranas, un film qui est inspiré de faits réels.
T'es arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en deux minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes au pied, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés, baptisés. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, maintenant je suis sur la terre. Arrêtez. Enfants de l'autre côté, on était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Mathieu Leroux à la prise de son. Cette émission est à réécouter évidemment cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, mais aussi à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 à 10h dans Présence protestante, c'est votre magazine, ma foi, comme tous les premiers dimanches du mois, aujourd'hui autour du thème de l'intergénération avec en plateau Joël Attia, pasteur et animateur auprès de jeunes, et en pleine nature Isabelle Schwebel en charge d'un jardin partagé. À suivre ici sur France Culture vos informations qui seront suivies de Talmudique présenté par Marc-Alain Wachnin. Moi je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun, et puis surtout n'oubliez pas, on se retrouve le premier dimanche du mois prochain, en février, le 2 février, pour la suite du cheminement autour du personnage de Paul avec Pierre Magne de la Croix. Au revoir.
Voilà.